qui est assez positif parce que globalement, je peux vous dire, on a fait des études et ce sont des adultes à haut potentiel qui vont bien. Si on a fait des études comparatives sur la qualité de vie de l'adulte à haut potentiel versus l'adulte standard, la qualité de vie est identique. Alors, ça n'empêche pas qu'ils ont eu des moments difficiles quand même, en particulier au collège. J'en ai parlé ce matin, je vais passer une bonne matinée. Donc, l'idée m'est venue de vous parler de la résilience chez l'enfant au potentiel, et avec un sous-titre peut-être énigmatique pour certains, l'aube des sentinelles. Et vous allez comprendre d'emblée pourquoi j'appelle les enfants au potentiel les sentinelles depuis un certain temps. Et d'ailleurs, il y a un livre qui va sortir en septembre prochain qui s'appellera Les sentinelles sur les enfants au potentiel. Donc, je reviens. C'est un TGV, direct. Donc voilà, je suis très content d'être là, je vais vous parler pendant une petite heure, et puis ensuite on aura le temps de discuter, mais après il y a des graphothérapeutes qui vont intervenir, et Dieu seul sait qu'elles sont précieuses pour nous, les spécialistes, pour les enfants au potentiel, et qui nous aident beaucoup, surtout pour les garçons, ils diront ça. Mais donc dans mon service, je reçois en consultation essentiellement moi, les enfants au potentiel, et en hospitalisation, sur les 24 lits, il y a toujours la moitié, des enfants au potentiel qui viennent un peu se ressourcer, quand ils sont en grande difficulté sociale, scolaire, familiale, des parents qui viennent les déposer en dévouement le vendredi soir et qui reprennent le lundi matin, pour les petits gars particulièrement difficiles. Et donc, voilà, je sais ce que c'est que de vivre à mi-temps dans le service avec des enfants de ce type-là, et je les vois évoluer. On va voir un peu comment on peut, quels conseils on leur donne pour arriver à dépasser les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Alors c'est là qu'on va commencer à plus filmer, parce que je vais vous donner l'explication de pourquoi les sentinelles. Bon, la résilience, je crois que c'est pas la plombe, avec la résilience, c'est la capacité à rebondir après un traumatisme. Donc comment on fait pour vivre bien? Comment on fait pour être heureux quand on est à haut potentiel? Et quand on a ce côté sentinelle que je vais vous exposer. Ça va être compliqué parce qu'il faut que je fasse marcher plusieurs trucs à la fois. Et comme je suis un peu dyspraxique, mais ça va le faire. Ça va le faire, ça s'avance quand même. Ouais, psychomotricienne, ouais. Je pense, volontiers. Je ferai mes études maintenant, je pense que j'aurai une AVS. C'est honnêtement, c'est une dyspraxie grave. Maintenant, c'est trop tard, peut-être une auxiliaire de fin de vie. Peut-être que j'y ai droit, rétrospectivement, pour utiliser l'AVS. Alors, vous êtes premier les sentinelles, on va en parler. Sentinelle, c'est quoi? Je vais interroger les premiers rangs. C'est quoi la définition de sentinelle? Et on lui parlait madame. C'est celui qui surveille. Donc bien entendu, les sentinelles, les enfants à haut potentiel, pour moi les sentinelles, c'est pas guerrier, c'est celui qui surveille. Et je vais vous raconter, donc vous lire, donc c'est là qu'on va arrêter de filmer, c'est le premier chapitre de mon bouquin. Un peu romancé quand même, mais vous allez voir que ça va parler à beaucoup d'entre nous. Ça s'appelle l'enfant de la plage. Et c'est censé avoir de la musique, si j'arrive à trouver le son. Donc, on va y arriver.
Un peu d'artifice.
Je sens que c'est un peu pas. Ah, ça finit toujours par marcher. La leçon même, c'est un peu la. Ah, t'as mieux là. Moi, on m'a rien dit. C'est pour ça, normalement. Tac. Tac. Vous entendez quelque chose? Ah ouais? Pas énorme. Alors, l'enfant de la plage. Ah. Elle suit en souriant son index qui, en larves arabesques, dessine le nombre 2005 sur le sable. L'année se termine tout en douceur pour cette famille, venue à l'autre bout du monde, échapper aux interminables nuits glaciales du nord de l'Europe. Malgré la torpeur ambiante, quelque chose ne va pas. Est-ce ce calme, presque étouffant, un peu trop calme justement, ou le chant des oiseaux qui s'accélère curieusement? Tous ses sens en éveil, l'enfant est préoccupé. Un regard vers ses parents la rassure. Allongé à l'ombre d'un palmier, il dort, paisible, savourant cette parenthèse chaleureuse, l'été en décembre. Son regard se porte au loin, là où le ciel et la mer s'unissent dans la brume de chaleur. Décidément, cette vague n'est pas normale. Vous voyez venir. Alors comme toujours, lorsqu'elle est inquiète, la petite fille de 10 ans active à son insu ses fonctions cérébrales. Concentration, logique, attention, mémoire. Toutes les connexions clignotent, comme un ordinateur qui cherche la mémoire. Soudain, elle se souvient. Ce cours de géographie qui l'avait tellement marqué. Et elle fait un lien improbable, épouvantable. Elle a compris. C'est inévitable. Ses yeux délavés se strient de vert, son joli visage est figé par l'angoisse. Elle bondit, réveille ses parents, tente de sortir les touristes de leur léthargie. Un tremblement de terre sous-marin. C'est un tremblement de terre sous-marin, dépêchez-vous. D'abord amusé et incrédule, puis intrigué. Tous se laissent brutalement gagner par l'anxiété et la conviction de l'enfant. En un instant, la plage se vide. Allô, à l'abri sur les hauteurs, ils assistent, sidérés à la catastrophe. Tous survivront. Vous vous souvenez de l'histoire? De retour à Copenhague, plusieurs jours après avoir déclenché l'alarme, la petite sirène ne comprend pas pourquoi elle est l'objet de tant de compliments, de tels égards. Elle n'a fait que remplir la mission pour laquelle elle pense avoir été créée. Une sentinelle. Équipée d'une intuition quasi magique, innée, qui la prévient avant tout le monde des dangers et l'oblige à intervenir sans cesse pour en éviter les conséquences. Cette fois, ça a marché. Une histoire vraie. Mais pour de nombreux enfants, cette même intuition complique la vie. Lorsqu'ils perçoivent fortement les tensions géopolitiques, les conflits parentaux, les tsunamis familiaux ou l'antipathie de leurs camarades. Leur tentative pour partager cette sensibilité, expliquer ce sixième sens, alerter, sont tellement maladroites qu'ils sont injustement rejetés, stigmatisés, voire punis. C'est l'univers fragile des enfants précoces, sentinelles
surexposées. Sentinelles surexposées aux avant-postes de la vie, condamnées à composer avec leurs compétences particulières, à vivre avec, et si possible un jour sans servir. Peut-être que vous pouvez filmer à partir de maintenant.
Alors finalement, vous voyez qu'on n'est pas uniquement dans le QI avec les sentinelles, hein, on est autre chose aussi. Et que les enfants au potentiel ne limitent pas à des compétences quantitatives, mais il y a aussi quelque chose de qualitatif dans le rapport aux autres, qu'on va essayer d'expliciter maintenant. Vivre avec un haut potentiel, est-ce qu'il faut en faire une maladie? Vous avez compris que non. Que ma mission, c'est justement de dire à tous ces enfants et leurs familles que c'est pas, qu'il n'y a pas besoin de s'en rendre malade. Est-ce que c'est un traumatisme? Alors en fait, j'aime bien dire en fait parce que les petits gars, les petites filles, avant 5 ans, quand vous leur demandez qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ou leur demandez n'importe quoi d'ailleurs, ils commencent toujours leur phrase par alors, en fait, c'est vrai. Vous pouvez faire l'économie du QI quand tu veux ça. C'est normal de le dire à 7-8 ans, mais quand vous le dites à 4-5 ans, en fait, c'est une façon très simple de contrôler et de commencer à maîtriser ce qu'ils vont dire après et d'éviter d'être pris à défaut. Donc en fait, beaucoup d'enfants à haut potentiel vont bien. La majorité d'ailleurs. On parle de résilience, mais la majorité sont des enfants difficiles à définir. On a mis quand même pas mal de temps à arriver à un consensus pour parler d'enfants à haut potentiel. On a parlé de précoces, surdoués, talentueux, etc. C'est des enfants qui, j'aime bien la définition de Winner, qui présentent trois caractéristiques. Ils ont effectivement l'avance intellectuelle, mais ils n'ont pas que ça. Ils ont aussi l'insistance terrible à se débrouiller seul. Combien de parents m'emmènent des petits garçons, des petites filles de 3-4 ans en disant « déjà maintenant, je n'arrive pas à le faire obéir ». C'est lui ou elle qui choisit comment il veut s'habiller, ce qu'il veut faire. Et le dernier élément, la rage de maîtriser, je trouve ça fondamental aussi. Parce que tout ce qu'on va voir après, tout ce qui va être gênant pour eux, c'est leur difficulté à accepter de ne pas tout maîtriser et de ne pas tout contrôler. Pourquoi à 3-4 ans, tous, ils veulent être paléontologues, égyptologues plus tard?
Ah, c'est sérieux.
Astronomes. Je me suis demandé pourquoi. 5-6 ans, ils viennent de tous les coins de la France et de l'Europe francophone, et on leur demande « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Je veux être paléontologue. Il n'y a pas un groupe sur Facebook, rassurez-moi. J'ai 5 ans, je veux être paléontologue, vous allez la faire.
On va le créer.
C'est que, simplement, ils ont besoin de comprendre d'où ils viennent et où ils vont. Et toute leur vie sera marquée par ça. Tant que je contrôle la maîtrise des choses, ça va. Si je la perds, ou si, à un moment donné, j'ai l'impression que je vais perdre la maîtrise, à ce moment-là, ils vont pas bien. Donc, la majorité d'entre eux vont bien, pas tous. Et ceux qui vont pas bien, ils peuvent avoir des troubles du comportement. Ils peuvent avoir des problèmes relationnels, ils ont des difficultés scolaires, on le sait, on va pas revenir là-dessus, ça a été bien abordé ce matin, ou des problèmes affectifs. Pourquoi? Parce que c'est des enfants décalés. Là aussi, je crois que la plupart d'entre nous ici, on sait ce que c'est qu'un enfant au potentiel, mais ils sont décalés de partout. Ils sont décalés à la maison, très tôt. Maniant le langage parfaitement, à 2 ans, ils ont les moyens d'argumenter. Ils sont décalés à l'école, puisqu'ils arrivent à l'école en content d'y aller, et puis ils ne veulent plus y aller au bout de quelques temps, parce qu'il y a des bébés, ou parce que les autres ne parlent pas le même langage, ne parlent pas comme eux, ne s'intéressent pas aux mêmes choses qu'eux. Et donc décalés avec leurs camarades aussi, qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Nous allons t'en reprocher à un moment donné aux associations, puis à Jeanne et moi, voilà, vous avez lancé une mode, tout le monde envoie, etc. Non, ce n'est pas une mode, ça a toujours existé, enfin au potentiel. Regardez ça. Qui a dit, voilà encore des écoliers qui ne profitent pas de l'enseignement pour une raison paradoxale, ils sont trop intelligents. Travail par caprice, on leur en veut, on les punit, on devrait former des classes de surnormaux. C'est ni Jeanne ni moi qui l'avons dit, hein. C'est la traite Binet en 1911. C'est l'inventeur des tests psychométriques, hein. Donc ça existait déjà. Alors ils ont un contentieux avec l'école quand même. Je vous ai pris quelques exemples récents. Lancelot, 12 ans. 12 ans, 2 ans d'avance, donc il est en 4e ou en 3e. Et la prof de français a trouvé marrant de dire bah, « Pour mieux vous connaître, vous allez tous les uns après les autres vous présenter votre principale qualité et me dire après ce que vous voulez en faire comme métier. Okay. » Tout le monde à 13-14 ans veut faire comme son père. Donc, moi je suis bricoleur, et je veux être garagiste, moi je veux enseigner, je suis pédagogue, je veux être enseignant. Et toi, Lancelot, tu es déjà un peu victimisé dans sa classe. Et toi, Lancelot, quelle est ta principale qualité? Et il lui répond, les yeux dans les yeux, narcissique, madame. Déjà un peu décalé par rapport aux autres, la moitié de la classe ne comprend pas le mot. L'autre moitié se tourne vers la classe, là, vers la prof de français en disant qu'on va le prendre. Et la prof de français dit, bon, admettons, François, tu comptes en faire quoi de ce métier? Et il lui répond, les yeux dans les yeux, sans insolence, miroitier. Vécu comme de l'insolence. Combien d'enfants à haut potentiel qui simplement ne voulaient pas faire comme les autres et ne pas rentrer dans le système d'identification à mon papa, ma maman, etc., comme les autres, mais ils sont là. Qu'est-ce que vous pensez d'Axel, 15 ans, déscolarisé depuis 3 ans. Donc au CNED, j'essaye de. Au départ, je n'aime pas trop les laisser au CNED, mais là, je le laisse. Et j'essaye de faire reprendre un peu goût aux études, mais il a passé son bac cette année, il l'a eu d'ailleurs avec le CNED après. Déscolarisation longue et puis une grande souffrance à l'école. On va pas se mentir, parfois il y a des enfants à haut potentiel, la différence avec les Asperger n'est pas très simple. Vous savez, les autistes de haut niveau qui ont des idées fixes, qui sont mal fagotés, comme on dit à Lyon, c'est-à-dire qui s'en foutent un peu de leur look, qui sont très intelligents aussi. Mais bon, et lui j'avais un peu un doute parce que je le trouvais pas très ajusté sur le plan social. La grande différence entre Asperger et haut potentiel, c'est que les deux ne sont pas ajustés, mais il y en a un qui sait pourquoi. Le haut potentiel, il n'a pas du tout envie de partager les codes sociaux des autres, alors que l'enfant Asperger, il aimerait bien les partager, mais il ne les connaît pas. Et donc la question clé du pédopsychiatre, quand on ne sait plus quoi dire et qu'on est perdu, c'est de lui dire à la fin, Axel, toi qui ne vas plus à l'école depuis longtemps et qui était vraiment en délicatesse avec l'apprentissage, Dis-moi quand même, si tu avais une baguette magique, c'est la question du bénéficiaire, quel que soit l'âge, ça marche toujours. Si tu avais une baguette magique et que tu avais un vœu à réaliser, qu'est-ce que tu demanderais? Il me répond, du tac au tac, comme font les enfants fulgurants, les enfants au potentiel, si j'avais une baguette magique, j'inventerais une machine à remonter le temps. J'étais à moitié rassuré que, par rapport à ma question de base, savoir s'il était bien structuré dans sa tête ou pas. Et puis il a vu que j'étais pas très rassuré, donc il en a joué Stan. Et il m'a embarqué avec lui, il me dit « Vous montez avec moi, Doc ?» Je lui dis « Ok. » Et on fait quoi? Il me dit « On remonte à la Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, Bismarck. » Je lui dis « On va passer la tête des étoiles, la porte des étoiles tous les deux, je sais pas où on va aller, mais il va m'emmener dans son monde, c'est ma partie. » Et comme il a vu que je commençais à m'inquiéter, il me dit « Bon, on s'arrête. » Ouf. On descend, et puis il me dit « Vous gardez la machine, Doc, je vais faire un tour. J'ai une course à faire. » J'étais de moins en moins rassuré. Et cet ado, vraiment en conflit avec l'école, à un moment donné, il me dit « Ça y est, je reviens, c'est bon, on repart. » Je dis « Mais t'as fait quoi ?» Il me dit « J'ai juste dégommé Charlemagne. » Et il a vu qu'il m'avait embarqué dans ses angoisses, dans mes angoisses, et d'un seul coup, il a éclaté de rire parce qu'il a vu qu'il m'avait embarqué là-dedans et qu'il m'avait rassuré parce que quand on a un tel humour et un tel deuxième degré, il n'y a pas de doute sur le diagnostic du profil à haut potentiel. Néanmoins, la réussite scolaire, on a fait une étude avec le lycée du Mans, le collège du Mans, comment il s'appelle, Saint-Louis. Donc j'ai envoyé une de mes étudiantes à vous qui a testé une centaine d'enfants et qui leur a fait passer des échelles d'estime de soi. Et même si les enfants disent qu'ils n'ont rien à faire de l'école, eh bien, on arrive à la conclusion que, d'ailleurs ils le disent tous dans le secret de la consultation, hein, si je pouvais, la baguette magique, souvent ils disent être bon élève, même si tout le monde les prend pour des fumistes, etc., ce n'est jamais vrai. Et que l'estime de soi est quand même intimement liée à la réussite scolaire chez tout le monde, et en particulier chez les précoces, même chez les précoces qui paraissent le plus désinvestis par rapport à l'école. Les enfants au potentiel, ils sont inégaux face aux difficultés. Et on en arrive à la conclusion actuellement que plus le QI est homogène, plus on a de chance bien sûr de réussir, mais pas uniquement. Plus le QI est homogène, plus on va bien dans les rapports sociaux. Et que finalement, ceux qui sont le plus en difficulté, c'est certainement les enfants dont les QI sont les plus hétérogènes. Alors ils ont des forces et des faiblesses. Avant de parler de résilience, eh bien, il faut les connaître. Je pense que ça parlera à tout le monde, mais en maternelle, c'est les gamins qui ont parlé tôt, qui ont beaucoup d'humour, qui ont envie de lire, qui ont besoin de tout contrôler et qui ont des intérêts spécifiques, on l'a vu, les dinosaures, Harry Potter et l'Égypte ancienne. Ils sont aussi déjà très tôt, dès la maternelle, préoccupés par qu'est-ce que pense l'autre, préoccupés parce qu'ils le ressentent. On verra que c'est aussi le point central, c'est l'empathie. On a vu la petite fille qui avait l'intuition, mais l'intuition, on verra que ça va avec l'empathie. Je vous ai mis en jaune, et j'espère que ça apparaît. En jaune, ce qui bah, le point négatif, c'est-à-dire que je parle tôt, donc j'argumente très vite. Pratiquement tous, ils ont du mal à s'endormir. Je ne connais pas d'enfant au potentiel qui n'est pas, depuis tout petit, du mal à laisser les parents. Enfin, bah, c'est renoncer à la maîtrise. Ils n'aiment pas l'échec. Tellement besoin de réussir et cette rage de maîtriser qui fait que j'ai développé le syndrome de Kirikou. Vous le savez, Kirikou? Kirikou, c'est une belle métaphore d'enfant à haut potentiel. Hein. C'est ce petit gars noir qui est très malin et qui veut toujours faire le bien autour de tout le monde, qui veut toujours tout réparer, mais tout seul. Il y a hors de question qu'on l'aide. En primaire, ils lisent très vite, ils intellectualisent, ils sont à l'aise avec l'adulte, mais du coup pas bien avec les autres. Et puis ils ont ces connaissances de plus en plus pointues, de plus en plus spécifiques. Hein. J'ai un petit gars qui a découvert l'Atlantide, enfin il m'a montré sur Google Earth. Sur Google Earth, il me dit « Je peux vous montrer, docteur ?» Et j'avais jamais vu ça. Et il m'a dit « Google, il est passé derrière moi, on avait mon ordi, il m'a mis sur Google Earth, il m'a montré une tache qui était entre le Brésil et l'Afrique, et il m'a dit « Je pense que c'est là. » C'est là. Je crois sur parole. Et c'est vrai qu'il dit, quand j'arrive à l'école et que je leur parle de l'Atlantide, les autres qui sont quand même encore au stade Pokémon, c'est compliqué. Alors bien entendu, en jaune, les risques de ces compétences-là, c'est d'être anxieux, d'avoir même parfois des TOC. Une question que je pose souvent aux enfants au potentiel, et ils n'ont jamais osé le dire, j'ai encore posé hier, la dernière patient que j'ai vue. Il n'y a pas des moments, tu as des idées fixes qui reviennent en boucle, et qui sont tellement absurdes, compter, calculer, vérifier, que du coup, tu en parles à personne. Mm. Et les gamins, ils ouvrent des grands yeux, ils disent, mais ouais, c'est vrai, mais je pensais que j'avais une maladie mentale. Posez la question, hein, les professionnels le savent, posez la question à ces petits gamins, ils ont pratiquement tous des TOC, parce que le TOC, l'idée obsédante qui revient en route, ça permet de contrôler la pensée, et d'éviter de penser à la mort, d'éviter de penser à la maladie, d'éviter de penser à la séparation des parents, à l'avenir de la planète. Donc leur TOC, ils en ont un peu besoin, mais ils en ont honte, parce qu'ils sont obligés de calculer, de se réciter des suites de chiffres, etc. Et chez l'adolescent, eh bien, pareil, ils ne s'intéressent pas du tout à leur look, donc ils sont inadaptés sur le plan social. Ils sont fascinés par tout ce qui est jeu intellectuel, beaucoup moins par l'école au quotidien. Ça, c'est un bon outil, hein, et les psychothérapeutes, les orthophonistes, les psychomotriciens, les graphothérapeutes savent qu'ils sont vachement sensibles à trouver un autre modèle adulte, qui ne soit pas un parent, pas un prof, et qui va à un moment donné leur tendre la main et les aider. Et puis, ils aiment bien les sports. Avant, il y a 10 ans, là, quand vous êtes ici avec mes transparents là, ils n'aiment pas le sport, c'est pas vrai. Ils aiment les sports atypiques, ils aiment l'escalade, le badminton, ils aiment l'escrime. C'est vrai que si vous les mettez au foot et qu'ils restent sur le banc tout le temps, c'est pas bon. Alors bien entendu, les points en jaune, hein, ce qui peut se retourner contre eux, ils n'aiment pas l'école, en tout cas ils peuvent la refuser, surtout les garçons, ils n'aiment pas les sports classiques, ils sont opposants. Et puis, ils sont quand même particulièrement à risque d'addiction aux jeux vidéo. Ils jouent pas à n'importe quoi, hein. Vous savez, ceux qui en ont, ils jouent à Minecraft, ils jouent à League of Legends, ils jouent à des jeux de stratégie, ils jouent à Dofus. C'est-à-dire qu'ils jouent à des jeux, ils n'aiment pas trop les jeux violents comme Call of Duty ou GTA V, ils n'ont pas intérêt, mais ils veulent des jeux créatifs, des jeux de stratégie. Sauf que si dans un jeu de stratégie, vous avez un personnage qui réussit tout, qui a des amis, qui a une vie sociale, qui fait partie d'un groupe, d'une guilde, et que ça marche, et que c'est plus gratifiant que la vraie vie, bien le risque, c'est de rester bloqué, scotché à ça. Donc c'est des enfants compliqués, pris en otage par leur empathie. Là, il faut leur poser la question. Il n'y a pas des moments, le fait que tu aies senti que quelque chose n'allait pas chez tes parents, à l'école, autour de toi, que tu te sens obligé de faire quelque chose pour eux. C'est ça le côté sentinelle. Et ils le disent tous, puisque je suis le seul à avoir compris ça, il faut que je fasse. Je sens que maman va pas bien, il faut que je fasse quelque chose. Je sens que la prof est en difficulté, il faut que je fasse quelque chose. Ça, c'est hérité de la notion de don. Le don, j'aime bien ce terme, un gift. Le don, c'est quelque chose qu'on a obtenu sans rien faire pour l'obtenir. C'est un avantage qu'on avait gratuit. Et bien, toute leur vie, mes petits sentinelles, ils se disent, puisque j'ai eu un truc, il faut que je m'en serve. Et il faut que j'aide les autres. L'histoire de Kirikou également. Donc ça les prend en otage, partout où ils passent, ils ressentent ce que d'autres ressentent, et ça leur complique un peu la vie. À force d'être empathique, ça les rend intuitifs. C'est la semaine dernière, un gamin qui m'a dit spontanément, à 13 ans, il dit, t'as pas des moments, des choses bizarres, il me dit, je vais vous le dire, mais je ne veux pas trop en parler, parfois j'ai l'impression que j'ai des intuitions. Il me dit, raconte-moi. Il me dit, une fois, je suis arrivé à l'école, et je me suis dit, avant d'arriver au collège, je me suis dit, la prof de français ne sera pas là. Et elle n'était pas là. J'ai une intuition et ça me gêne. Est-ce que tu penses que c'est toi qui es responsable? Non. Mais j'aurais peut-être dû faire quelque chose. Et puis je ne comprends pas pourquoi elle a senti ça. Alors je lui ai expliqué que c'était à cause de son empathie. La fameuse pensée en arborescence. Qui fait qu'ils utilisent toutes les aires cérébrales. Et que la veille, il avait été le seul à sentir qu'elle n'avait pas le même regard que d'habitude. Qu'elle n'avait pas la même présence, qu'elle ne parlait pas de la même façon, et que peut-être elle allait tomber malade. Sauf que, quand vous avez une fois une intuition qui s'est révélée vraie, ces gamins dont la précocité donne un effet loupe, qui fait qu'en permanence, ils grossissent tous les risques, ils ont toujours peur des catastrophes, ils ont peur que les parents n'aillent pas bien, ils ont peur qu'ils ont un petit bobo, ils pensent que c'est un début de cancer généralisé, etc. Si une fois j'ai eu une intuition et qu'elle s'est révélée vraie, qu'est-ce qui m'empêche de penser que chaque fois que j'aurai une intuition, ça va arriver? Donc c'est pour ça qu'ils sont pris en otage par ça. Donc cette intuition est responsable d'une hypervigilance anxieuse. C'est-à-dire qu'en permanence, eh bien, ils sont en train de surveiller ce qui se passe dans la famille, sur la planète, autour d'eux, dans la classe. Et même, ça peut aller jusqu'à la dépression. Pas mal d'enfants à haut potentiel qui sont déprimés. Alors déprimés, c'est pas une dépression grave, mélancolique, comme le dépressif qui porte ça dans ses gènes, c'est du spleen, c'est du désenchantement. J'aime bien ce terme, souvent ils me disent, un gamin il peut faire une rédaction sur, prenez un titre de film et faites-en une rédaction. Et lui, il n'avait pas pris la grande illusion qu'il avait vue la veille, il a pris, ma vie, la grande désillusion. C'est bien sûr quand ils sont désenchantés qu'il faut qu'on intervienne, hein, les professionnels. Ce que j'appelle aussi le syndrome de l'aquaboniste. À quoi bon? Combien d'enfants précoces me disent ça? À quoi bon bosser? Chômage. À quoi bon grandir? À mourir. À quoi bon se marier et à un divorce pour deux mariages? Et ce côté aquaponiste, eh bien, il faut que nous, les professionnels, les parents, les adultes en face, on ait des réponses pour ça. Et on va voir que la mission de la résilience, c'est de les aider à rebondir. C'est des enfants lucides, extra-lucides. J'aime bien ces vers d'Hippocrate. Hein. Finalement, la vie est courte, l'art est long, l'occasion fugitive, il faut la prendre, l'expérience trompeuse, le jugement difficile. Vous avez tout ça, et ils se posent ces questions-là tout le temps. Quand on rentre en thérapie avec un enfant à haut potentiel, je peux vous dire que des questions, eh bien, elles fusent quand ils ont confiance dans l'adulte. Ils sont parfois difficiles à comprendre aussi. Je pense que c'est ça leur devise. Never complain, never explain. Ne jamais se plaindre, jamais se justifier. Et justement, moi, je vais leur apprendre à se plaindre, je vais leur apprendre à lâcher prise, à accepter de parler de leurs plaintes alors qu'ils les gardent pour eux. Par contre, ils n'aiment pas se justifier non plus. Ils n'aiment pas qu'on leur demande des comptes. Et on sait à quel point c'est compliqué quand on leur demande des comptes et que la personne qui leur demande des comptes, elle est injuste. Ils détestent l'injustice. C'est une façon aussi de couper court à toute relation avec un prof. Si d'emblée, dès la première heure de cours, il y a une punition collective, c'est fini. Ils détestent ça. Ils recherchent la paix. Et leur besoin de tout contrôler, de tout maîtriser, fait que quand ils ne trouvent pas la paix, ils paniquent. Ils ne supportent pas. Malo, 11 ans, ses parents s'étaient séparés. Et il arrive en pleurs. Je lui dis, mais Malo, pourquoi tu pleures? D'ailleurs, Malo, au lieu de me dire, normalement, mes parents sont séparés, il y a une phrase que seuls les précoces ont, c'est un truc. Je lui dis, pourquoi ça va pas? Il me dit, parce que mon père fait prendre au lasso par une pétasse que ma bison m'a tatouée. Je vais pas me dire, papa est parti, non, c'est juste impossible. Pourquoi t'appelles dans ce détail? Il répond parce que je le sentais. Je lui dis, je pense que t'es responsable, c'est pas possible. Enfin, toi, un petit garçon de 11 ans qui est responsable de ça, il me dit, mais non, vous comprenez pas? Je lui dis, c'est pas la peine d'avoir fait tant d'études. Je lui dis, ouais, peut-être. Il me dit, je l'ai senti avant tout le monde, d'ailleurs il l'a senti même avant ses parents l'ont laissé là. Et il me dit, je savais que ça allait plus entre eux et je n'ai rien fait. Et ça, je l'entends systématiquement dans l'après-cours. Quand ils ont repéré quelque chose, et rappelez-vous cette obligation morale de s'en servir. Les enfants vite débordés. Alors, je vais vous le faire pour du pisser, ça va me perdre encore 5 minutes, mais je vais vous le faire quand même. Vous connaissez le pisser, c'est pas ici. Alors, je vais vous apprendre un truc. C'est un autre chapitre, vous ne pouvez pas le filmer celui-là, parce que c'est un autre chapitre des centenaires. Même les murs ont une âme. Alors dans mon pays, dans ma région, beaucoup de, dans le Dauphiné, beaucoup de bâtisses sont en pisé. La maison des bâtisses. C'est des murs en terre, des murs épais qui sont en terre. Et c'était bien parce que dans notre région qui est très continentale, ça permet de réguler la température. Quand il y a une grosse chaleur, on ferme les volets et la terre absorbe l'énergie extérieure et la restitue la nuit. Donc le pisé, c'est un mur qui vit. Dans le même temps, le mur se gorge de l'excès de vapeur, d'eau qui flotte dans l'habitat, il la rendra si besoin. Donc il y a une espèce d'échange. Et tranquillement, donc les murs des fermiers respirent, ventilent, tempèrent, ils vivent. En fait, c'est les murs vivants. On le sent quand on rentre dans une maison en pisé, ça vit. Et donc on peut savourer la fraîcheur quand on a bien tout fermé, même s'il fait 40 degrés dehors, quand c'était le cas dans la canicule, dans les maisons en pisé, il faisait frais, quand on a tout fermé. Néanmoins, le pisé est connu pour être efficace jusqu'à un certain point. Si on a oublié de fermer une porte, si la lourdeur orageuse s'intensifie, à un moment donné, la terre est saturée et elle ne peut plus remplir son rôle d'échange. Et à ce moment-là, la chaleur envahit les pièces. Et c'est définitif, c'est irréversible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette façon de tempérer n'est plus possible. Et bien, les enfants à haut potentiel sont comme le pisé, pour moi. Ils sont bâtis pour amortir les conflits, on l'a vu, pour tempérer, pour calmer l'agressivité, pour rendre les atmosphères familiales, scolaires, vivables. C'est un peu une histoire naturelle, c'est inscrit dans leur gène, hein. On sait que c'est génétique, la précocité, mais ça a été renforcé par les projections parentales, hein, qui ont voulu un enfant qui soit pacifique. Leur but, c'est de rechercher la paix à tout prix. Et c'est en général un challenge qui est réussi, c'est un challenge qui est plutôt exaltant. Mais comme le pisait, ben, il arrive que leur capacité d'apaisement soit débordée. Quand l'injustice est trop forte, quand l'agressivité des autres est trop gratuite, ils ne supportent pas ça. Quand l'ingratitude et la mauvaise foi sont trop violentes. Alors bêtement, c'est là que leur apprend aussi à changer, ils abandonnent. Ils abandonnent, ils sont déçus et vexés peut-être, blessés certainement. J'ai donné ma confiance, j'ai essayé d'arranger les choses, on m'a roulé. C'était ma meilleure amie et elle allait raconter des trucs. Et ça, ils ne supportent pas. Ils sont comme un mur épuisé, fissuré, impuissant. Il ne leur reste que la rancœur qui les isole. C'est la faute de la terre. Mais c'est ça aussi. On verra que la résilience, ça passe par leur apprendre à éviter la rancœur et leur apprendre à pardonner. Parce que dans la vraie vie, genre, comme ça, dans la vraie vie, t'en rencontreras plein des situations injustes et t'en rencontreras plein des gens qui vont te décevoir. Donne-leur une deuxième chance. Alors en fait, à tout moment, la résilience est possible, malgré tout ce qu'on vient de dire. Malgré la complexité de ces gamins, qui sont d'une richesse absolue, mais qui sont aussi pas très simples à manœuvrer. Alors la résilience, je pense que la plupart d'entre nous connaît ça, c'est la capacité à se développer en dépit de l'adversité. Vous savez que c'est un terme de physique, c'est la capacité d'un solide à reprendre sa forme initiale après un traumatisme. Donc c'est Cyrulnik qui a réactualisé ce terme dans Un merveilleux malheur en disant c'est finalement être capable de changer notre regard sur le malheur et puis malgré ce qui nous paraît de la souffrance, redécouvrir ce qui est merveilleux derrière. Eh bien, en psychothérapie, avec tous les enfants en général, et particulièrement avec les enfants à haut potentiel, ce qu'on cherche, c'est la résilience. Alors qu'ils voient juste un mur fermé et fissuré, leur apprendre qu'il y a une fenêtre, une porte qu'ils n'avaient pas vue et qu'on peut revivre avec ça, et que même leurs difficultés, ça peut devenir un atout. Une fois qu'ils l'ont compris une fois, eh bien ça marche beaucoup mieux par la suite. Alors comment on les répare ? Reconnaissance, réassurance. Tant qu'ils ne sont pas reconnus, tant qu'ils n'ont pas expliqué à leur entourage, à leur famille, à leurs profs, à leurs copains comment ils fonctionnent, ça ne peut pas fonctionner. Reconnaître leurs particularités. J'imagine que ce matin, on en a parlé, c'est l'intuition, la créativité. Ça fait pas bon ménage avec l'école, ça, pour l'instant, les deux choses. Et réassurance, c'est les accompagner affectivement. Il faut savoir les écouter avec bienveillance, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, il faut savoir positiver. C'est des gamins qui, à un moment donné, sont pris dans une spirale. Rappelez-vous ma cascade affective. Empathie, intuition, vigilance anxieuse, dépression. Ils sont pris dans cette spirale-là. Et notre mission à nous, les adultes, c'est de les aider à inverser la tendance, réamorcer la pompe positivement pour qu'ils imaginent que c'est possible de se faire plaisir. Alors, réassurance, d'abord, il y a le problème de la mort. Quand à 3 ans, vous avez compris que la mort, c'était définitif. Alors, normalement, c'est 6-7 ans. À l'âge de raison, on a compris que la mort, c'était définitif. Et les enfants à haut potentiel, avec leur avance, leur lucidité, ils l'ont compris très tôt, trop tôt. Et ils ne sont pas encore armés pour absorber une telle nouvelle. Donc il faut leur faire parler de la mort très tôt. Qu'est-ce que tu penses de la mort? Tu y penses quand, etc. Et parfois, ils ont les plus intelligents, les filles. Elles ont des stratégies. Oui, mais ce n'est pas forcément à leur avantage parce que honnêtement, vous le savez, elles masquent leurs compétences. Comme les filles masquent leur déficit d'attention, alors que les garçons externalisent quand ils ont quelque chose de particulier. Les filles internalisent. Et pendant trop longtemps, les fillettes, elles vont essayer de s'adapter, de se suradapter, ce qui fait qu'on fait le diagnostic de haut potentiel beaucoup trop tard en ce qui les concerne. Et malheureusement, d'un seul coup, elles viennent nous voir au bord de la crise de nerfs, en fin de collège, début de lycée, en disant « j'y arrive plus ». Mais elles ont tellement tout masqué que leurs craintes, leurs peurs, elles les ont calfeutrées dans des tocs. Elles comptent dans leur tête, elles calculent, elles essaient de tout maîtriser et elles n'ont alerté personne auparavant parce qu'elles ont essayé de faire comme les autres. La mort, Laurie, 14 ans, elle vient me parler de la mort. Je lui dis, mais Laurie, avec ton QI, c'est pas d'hier que tu me parles que tu sais que la mort, c'est définitif. Regardez ce qu'elle me sort. Quand j'étais petite, j'étais arrivé à me persuader quand même que quand quelqu'un mourait, il se transformait en étoile. Bonne stratégie de précoce, alors ça allait mieux. Mais je viens d'apprendre que les étoiles mouraient aussi. Vous êtes parti là-dedans, c'est pas fini. L'intuition, ça, c'est vraiment, avec l'empathie, pour moi, le deuxième mot clé de des enfants à haut potentiel. Et l'intuition, ça renferme deux tendances, pressentiment, d'abord l'intuition, je sens que quelque chose va arriver, on en a parlé, et puis aussi la façon de traiter l'information. Un enfant à haut potentiel, il traite l'information de façon intuitive, pas déductive, j'imagine que ça a été évoqué ce matin. C'est-à-dire que la pensée en arborescence fait que ça lui apporte la solution très vite, un problème, mais il ne sait pas comment il a fait. Il a pas besoin de déduire. Ça marche en primaire, et puis quand il arrive au collège et qu'on lui dit « Je ne peux pas te compter tout juste, là, explique-moi comment tu as trouvé », et qu'il répond « Mais je sais parce que c'est évident », ça ne passe pas, ça. Et les profs vont lui compter que la moitié des points. Première injustice, hein. Ça peut être le début du conflit avec l'école. Lilou, 8 ans, fille de commandant de bord, mais beaucoup à Lyon, je comprends, il y en a pas mal qui habitent dans le monde. Son père est pilote sur la France et d'un seul coup elle se met à pleurer à l'école. Donc je ne comprends pas le problème. Et elle gérait bien son ancienne séparation auparavant. Et en fait, à un moment donné, j'ai demandé aux parents qu'est-ce qui s'est passé. Et le père dit, maintenant chaque fois que je pars en voyage, avant elle ne pleurait pas, maintenant elle pleure. Et en fait, quand on a l'habitude de cette notion d'intuition qui dépasse ce qu'on peut en attendre, eh bien je vais poser la question à Lilou, qui m'a dit, c'est depuis l'accident Paris-Rio. Et j'ai bien vu que mon père, en rentrant, eh bien, il était le premier perturbé quand il est entré de son autre voyage, parce que tant qu'on n'avait pas la réponse de pourquoi l'Airbus d'Air France s'est crashé, eh bien, j'ai vu que mon père était plus inquiet que d'habitude. Et donc ça, il l'avait senti avec son empathie. Et c'est là que je lui ai répondu ce que je disais tout à l'heure. Mais Lilou, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moments aussi où tu as redouté qu'il y aurait une catastrophe et c'est jamais arrivé? Là, elle a pu recommencer à aller à l'école à partir de ce moment-là. Donc parfois, des mots qui sont très simples, qui permettent de leur montrer le pourcentage de risque de ce qu'ils redoutent. Combien tu crois qu'il y a d'accidents d'avion dans le monde? Quel est le pourcentage? Et à ce moment-là, on leur fait entendre ces choses-là en appuyant sur des normes extrêmement objectives et ça les rassure. À l'école, c'est pas bon, hein, ça les jette pour apprendre. Et puis, bien entendu, l'école n'est pas basée ni sur l'intuition ni sur la créativité. Elle l'est de plus en plus, mais il y a encore du boulot. Et notre mission, c'est ça aussi. Hein, mais on n'a jamais été si proche des inspecteurs d'académie, surtout des référents pour les enfants à haut potentiel. C'est de leur apprendre à ne pas brider l'intuition et la créativité chez l'adolescent précoce. C'était un cancre, lui, hein, je suis fini à Einstein. Et il n'a pas parlé avant 5 ans, etc. Et puis, heureusement qu'il a trouvé son truc à un moment donné, mais il était complètement à part dans les sociétés scientifiques. Regardez comme c'est joli ce qu'il disait. L'intuition est un don sacré. Et l'esprit rationnel, déductif, analytique, en est un fidèle serviteur, un loyal serviteur. Nous avons malheureusement créé une société qui privilégie finalement le serviteur et a oublié le don. Et puis il y a d'autres études, une étude intéressante en 2008, qui dit que quand à l'école et face à un enfant, on encourage et on stimule sa créativité, eh bien on développe encore plus de potentiels qui sont dans ses gènes. C'est-à-dire que la créativité est un espèce de booster qui permet de donner le maximum de soi-même. Donc je pense qu'on a beaucoup d'espoir, ça a été certainement abordé ce matin, avec un enseignant qui est adapté. Je vais vous montrer un exemple, si ça marche. Oui, j'aime bien cette phrase de Franck. Hein. C'est ça que je transmets aux enseignants. Les enfants au potentiel, ils ne peuvent pas se contenter de quelque chose qu'on leur apporte tout fait, tout prêt. Il faut que l'enseignant s'implique pour qu'ils aient envie d'apprendre. Un petit bout de film, si ça marche, mais je ne sais pas si vous maîtrisez bien la machine. C'est un internat pour enfants précoces à Aubenas. Ça va marcher. Je suis serein. Allez, plus jeune. Quand tu veux, tu peux.
L'éducation, avec à moins de 3 semaines des premières épreuves du bac, le paradoxe des adolescents précoces. Ils comptent 1 par classe en moyenne, ils comprennent plus vite que les autres, et pourtant, un tiers d'entre eux sont en échec scolaire. C'est devenu un sujet d'études très poussé. Les institutions spécialisées sont de plus en plus nombreuses. C'est le dossier de cette émission, il est signé Joseph-Jean Lapierre et Guillaume Guinness.
Petit bruit, voilà ! Faire jouer Cyrano, une astuce du professeur de français pour intéresser sa classe de précoce. Des élèves qui sont mal vite.
On n'a pas trop les droits pour
la question intellectuelle supérieure à 130, 2 ou 3 ans d'avance, difficile de les faire entrer dans le moule électronique.
Tu sais, tu vas chercher ma bonne voix de
la plupart d'entre eux, une fois qu'on a expliqué, une fois qu'on a dit, c'est compris. Pas forcément retenu pour tout, mais compris. L'autre chose, c'est être un petit peu original dans la façon de présenter les savoirs, même inventif.
Avec eux donc, inutile de répéter. Ils apprennent vite, mais survolent les matières et n'acquièrent aucune méthode de travail. Les précoces ont pourtant le même cerveau que tout le monde, mais ils l'utilisent différemment. Sur cet IRM, en rouge, les zones activées par un cerveau de QI moyen. À tâche égale, voici les mêmes zones mais largement plus utilisées par un cerveau de QI supérieur à 130. Les précoces se fatiguent donc plus vite et décrochent quand il s'agit de se concentrer trop longtemps.
Il va falloir tenir compte de ça dans leur prise en charge éducative pour ne pas les amener à des troubles du comportement ou d'autres troubles d'apprentissage.
Et pour trouver l'établissement qui leur convient, ils font parfois des kilomètres jusqu'à trouver refuge à l'internat, comme ici dans ce collège d'Aubenas, où les précoces trouvent du sur-mesure, un cycle scolaire en 3 ans au lieu de 4, et des copains qui ont connu les mêmes galères.
Souvent les autres vous gardent un peu bizarrement en se disant ouais, le faillot et tout comme ça.
La maîtresse, elle a commencé à répéter tout le temps les choses, et puis elle n'aimait pas non plus, donc bon, c'est un peu difficile. Dès que je bougeais, j'ai eu un prof qui n'acceptait pas que j'étais précoce. Il ne voulait pas. Il voulait pas le savoir. Il voulait combien de temps.
Et parfois, c'est leur grande sensibilité qui leur joue des tours. C'est le cas de Sébastien, anxieux au point de refuser d'aller au collège. C'était devenu plus fort que lui.
Le matin, je me réveillais, j'étais très très angoissée. Je me crispais, je pleurais, dans la gorge, ça me prenait, ça serrait. Et puis à chaque fois que j'allais au collège, j'étais incapable de suivre des cours, quoi, parce que j'étais pas bien. Et donc j'étais restée à l'infirmerie, après on me cherchait, et c'était la maison.
Donc voilà, les enfants qui viennent dans mon service, voilà ces enfants qui viennent dans mon service quand ils n'y arrivent pas. Hein. D'ailleurs, sur Facebook, ils s'écrivent entre eux, toute la France, et c'est assez marrant la métaphore, parce qu'ils disent tu retournes quand à Poudlard. C'est-à-dire qu'au-delà de l'humour, c'est une façon de dire il y a un endroit où on est considéré, pas comme le dit Sébastien, mais où on nous considère comme des enfants différents, mais où on accepte cette différence-là. Harry Potter a commencé à dire bien quand il était en contact avec d'autres enfants comme lui. Alors comment on répare? On accompagne effectivement, on a dit écouter avec bienveillance. Je pense que tant qu'il n'y a pas de bienveillance avec un enfant au potentiel, aussi bien dans la thérapie que dans la scolarité, ça ne peut pas marcher. Et puis, moi je crois qu'il faut arriver à les convaincre, les positiver. Et avec les ados et les pré-ados, c'est ma grande mission dans les consultations. Convaincre plutôt que contraindre. Je crois que retenons ça. On ne peut pas contraindre un adolescent précoce, même un pré-ado, à faire quelque chose tant qu'on ne l'a pas convaincu de la nécessité de changer son comportement. Noé, 15 ans, qui me dit, il n'y a pas si longtemps, il m'en voulait un peu. Il me dit, moi, il était celui-là, Doc, sur ce coup. On m'avait dit qu'au lycée, ce serait mieux. En fait, c'est pareil. Donc, au lieu de lui dire, si, je te jure, c'est mieux qu'au lycée, c'est mieux au lycée, il faut absolument qu'il accepte. Je lui dis, qu'est-ce qui est si dur pour toi? Il dit en français, elle perd du temps, elle explique toutes les métaphores. Comme ça, joli comme image. Et au lieu de lui dire, bah, oui, ben voilà, c'est comme ça. Je lui dis, qu'est-ce que tu pourrais faire pendant ce temps? Et il me dit, bah, peut-être en inventer d'autres. Et là, il se met à sourire, à se détendre. Ou apprendre à m'ennuyer. Et c'est bien ça qu'il faut qu'ils apprennent aussi, accepter de s'ennuyer. Et ça, ils ont tellement de mal avec cette absence de contrôle et de maîtrise. Mais quand on arrive à leur faire dire ces choses-là, que c'est à eux à apprendre à s'ennuyer, que l'ennui n'est pas dangereux. En fait, l'ennui est dangereux pour eux parce que si je m'ennuie et que je n'occupe pas mon cerveau, eh ben, je vais penser à des tas de trucs auxquels il ne faudrait pas que je pense. Positiver. J'aime bien leur dire ça aussi. Ils adorent les métaphores, hein, les gamins. Il ne faut pas leur expliquer, mais ils les adorent. Quand ils nous disent je voudrais bien arriver à débrancher mon cerveau parce que partout où je rentre, je ressens tout ce que les autres ressentent, et puis je ressens trop de trucs, et puis je ne peux pas m'endormir le soir parce que j'imagine plein de trucs. Ça, un petit gars de 8 ans qui me dit ça va passer quand, docteur? Je dis jamais. Tu peux pas arrêter la vague de ton intelligence et qu'il te submerge, mais je vais t'apprendre à surfer dessus. Ah bon, d'accord. Mais comment on va faire? Eh bien, c'est la psychologie positive, on note des objectifs raisonnables. On va apprendre le goût de l'effort, on leur explique que tous les adultes, on est obligé de se forcer, que toute la vie, il faudra qu'ils se forcent aussi. Qu'on n'a pas tous eu des boulots comme ça du jour au lendemain sans avoir fait un effort. Un truc qui accroche quand même super bien avec eux, c'est l'humour, toujours. Et il faut essayer de répondre à l'humour par l'humour. Si on répond à leur humour, même si c'est un peu cynique parfois. À cause de mes bouquins, je suis beaucoup passé à la télé là, et l'autre jour, il y a une petite de 8 ans qui était en... J'étais en retard, elle était énervée, elle ne voulait pas venir me voir. Elle me regarde et me dit « C'est vous, Lyon ?» Mieux à la télé. J'ai mieux à la télé qu'en vrai. Si je lui dis « Bon, ma chérie, tu seras bien suivi à l'hôpital d'en face », ça ne va pas le faire. Et donc, je lui ai répondu direct, du tac au tac, « Moi aussi, à ton âge, quand j'allais chez le psychiatre, ça m'inquiétait. » Donc, elle a compris que j'avais compris sa remarque qui n'était pas insolente, gratuite, mais qui était une façon de lutter contre l'anxiété. Glisser du côté de la vie, hein, cultiver tout ce qui est positif. Je leur apprends à devenir proactif. Prends-toi en main. Allez, vas-y. Et quand ça vient de quelqu'un d'autre que les parents ou que les profs, ça marche toujours mieux. T'avais une rage de maîtriser, petit, tu t'en souviens, à leur faire identifier comment ils fonctionnent. Et les gamins, les enfants au potentiel, ils sont très sensibles à ce qu'on appelle la métacognition. Leur expliquer l'arborescence de la pensée, l'empathie, l'intuition, les tocs, pourquoi il a des tocs, etc. Chaque fois que vous donnez du sens à leur fonctionnement, eh bien, ils sont hyper réceptifs à ça. Mais un enfant au potentiel, il doit quitter une consultation médicale, psychologique, avec un graphothérapeute, pardon, un psychomotricien, il doit quitter en ayant l'impression qu'il s'est passé quelque chose dans la consultation et qu'il ressort avec quelque chose de plus. On ne peut pas se contenter de la psychothérapie standard qu'on fait avec les enfants standards, où il y a des espèces de blancs, où il ne se passe rien. Ça, c'est insupportable pour les enfants au potentiel. Il faut qu'ils fréquentent des gens optimistes. Il y a une maman qui m'avait écrit un super truc une fois. Moi, je suis spontanément optimiste. Elle m'avait envoyé un mail, ne soyez pas votre optimiste, il est contagieux. Et c'est vrai que quand ils fréquentent des gens optimistes, eh bien ça passe, hein, et ils sortent beaucoup mieux. Hein. Tu ne peux pas changer ton cerveau, mais change la façon dont tu l'utilises pour penser et pour apprendre. J'aime bien cette image aussi. Si tu te prends la tête à deux mains en disant bah, « je suis comme ça, c'est la catastrophe, de toute façon ma vie est foutue », ou si tu te dis « ça va changer tout seul », c'est pas bon non plus. Sois réaliste. Je dis aux enseignants aussi, hein, vous avez 1, 2, 3 précoces dans votre classe, il va falloir ajuster les voiles. Il va falloir réduire la voilure, au contraire, l'augmenter dans certains cas, parce que ça va trop vite, il y a trop de vent. Et il faut être comme s'il était sur un bateau. Et puis je termine là-dessus, parce que ça c'est un truc que j'ai découvert et qui me plaît beaucoup, c'est compter sur le hasard. Et tous les précoces adultes que je suis, parce que de plus en plus à 23, 24, 25 ans, ils vont me voir en disant voilà, comment je suis sorti, et ils veulent comprendre comment ils ont pu s'en sortir. C'est où ça ? Monica. C'est pas. Voilà, c'est ce que je voulais prouver. Je lui ai dit tout à l'heure, je vais montrer, elle a oublié. Hein? Donc on peut être précoce et avec un déficit d'attention. Vous savez que c'est même hyper à la mode. Hein? À Bruxelles, l'autre jour, je présentais un nouveau concept que j'ai développé parce que je vois que de ça pratiquement. C'est ce qu'on appelle le TDAHP, trouble déficit d'attention avec haut potentiel. Et ces enfants-là, ils cumulent. Tout pour se planter à l'école. Ils n'aiment pas les consignes, ils n'aiment pas tenir un crayon, ils sont distraits par tout ce qui ne les intéresse pas. Donc, puisque Linka va nous aider, c'est Célan. Et Célan, ça s'appelait Serendip. Et je ne sais pas si vous avez que certains d'entre vous connaissent peut-être ce concept, mais si vous ne le connaissez pas, vous allez vous régaler et aller voir sur Internet parce que je n'aurai pas le temps de trop le creuser. Et la Serendipity, hein, c'est un terme qui n'est pas récent, qui a été créé au 18e siècle, oui. Inspiré d'un conte qui s'appelait Les Trois Princes de Serendip, où le roi de Serendip envoie ses trois, donc de Ceylan, envoie ses trois fils à l'aventure dans le monde pour leur apprendre un peu la vie. Et ils reviennent et ils racontent tout ce qu'ils ont vu, et ils racontent comment le hasard a finalement bien fait les choses. Et finalement, la serendipity, c'est un terme qu'on utilise en général en science, c'est les découvertes inattendues qu'on a faites grâce au hasard et l'intelligence. Et ce mix d'intelligence et de hasard, eh bien, peut apporter des choses incroyables. Et tous les adultes qui s'en sont sortis, les anciens précoces qui s'en sont sortis, comme la majorité d'entre eux, on l'a vu tout à l'heure, eh bien, à un moment donné, ils ont fait cette rencontre. Et cette rencontre, bien sûr, il faut savoir la provoquer. Donc, c'est comme ça qu'on a découvert, on cherchait autre chose, c'est comme ça qu'on a découvert l'aspirine, la pénicilline, pas de droite, c'est le dépakine. On a découvert ces médicaments, on cherchait autre chose, et on s'est rendu compte que l'aspirine, ça calmait les maux de tête, alors c'était pas ce qu'on cherchait. Mais bien entendu, il faut avoir quand même cherché. Et il faut compter sur cette part de hasard. J'aime bien ce joke. Allez, donnez-moi un nombre entre 1 et 10. 2. Allez hop, on essaye avec 2. E égale MC2. Ah, ça marche. C'est comme ça. Mais s'il n'avait pas essayé, ça n'aurait pas marché. Un heureux hasard. Mais Pasteur disait, le hasard ne favorise que les esprits préparés. Or, ils ont la chance, nos enfants à haut potentiel, d'avoir un esprit potentiellement préparé pour accueillir plein de choses, à condition qu'on ne les ait pas dégoûtés. Donc moi, j'essaye de ressusciter ça chez eux, et leur apprendre que la sérénité, ça existe. Je leur donne des exemples. Si vous êtes professionnel, donnez-leur des exemples de votre vie. Vous avez fait une rencontre qui a tout changé, alors que vous alliez à une réunion où vous n'aviez pas du tout envie d'aller. Et puis vous y avez été quand même. Et heureusement, vous y avez été. Hier encore, le dernier que j'ai vu à 20h, dernier gamin, il fait une école de design. Et il me dit, c'est génial, il m'a montré ce qu'il dessinait, c'est magnifique ce qu'il dessine. Et il me dit, je vais vous raconter un truc, je suis parti à Paris avec ma voiture, et arrivé à Paris, ma voiture était pétée. J'ai failli tout envoyer bouler, elle ne roulait plus, j'ai terminé mon métro, etc. Et le lendemain, à l'école de design, la prof de maths, je ne pensais pas qu'il y avait des maths dans cette école, la prof de maths, elle m'agresse d'entrée, et je me suis dit, ça va pas être possible, je rentre à Lyon. Ah merde, ma voiture est cassée, donc je n'ai pas pu rentrer. Il me dit, heureusement, ma voiture était cassée, parce que je n'ai pas pu rentrer, sinon je ne serais pas là maintenant, en train de réussir ma vie professionnelle. Donc voilà, sur le moment, si t'es arrivé un accident, tu aurais pu prendre la tête à deux mains en disant c'est une catastrophe, et tu te rends compte que cet accident, le fait que ta voiture ne marche pas, ça t'a peut-être sauvé ta carrière. Eh bien, pense que chaque fois dans ta vie, il y a quelque chose de négatif qui arrive, tu peux en faire quelque chose de positif. Et que si ton haut potentiel t'a un peu compliqué la vie jusqu'à maintenant, rappelez-vous ma cascade affective, empathie, intuition, hypervigilance, désenchantement, eh bien, à nous d'intervenir, et là, ils ont peut-être besoin d'aide à un moment donné, pour que l'intuition leur permette la rencontre avec le hasard, la serendipity, et que grâce à ça, ils puissent se réenchanter. Maintenant, il faut absolument que ils aient accepté de sortir de cette cascade-là. On ne va pas leur parachuter devant la maison, la personne qu'ils doivent rencontrer. Il faut qu'ils bougent, il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils aillent voir sur Internet s'ils sont déscolarisés, il faut qu'ils aillent fréquenter un groupe, il faut qu'ils fassent du sport. Mais là, il va se passer quelque chose, et c'est des gamins qui sont particulièrement équipés pour qu'il se passe quelque chose. Donc en somme, pour conclure, ouais, finalement, j'ai perdu le temps. J'ai pas envie d'aller. En somme, pour conclure. Accompagner un enfant en HP, il y a le bouquin de Fabrice Bach, tu n'as pas fini de le lire, encore le cas, qui dit accompagner un enfant en HP, c'est une histoire de famille, c'est-à-dire qu'il faut que la famille intervienne. On ne peut pas le faire tout seul, mais les parents, de plus en plus, les parents sont, pour nous les psys, les parents sont des co-thérapeutes, hein, on peut intervenir tout le temps, les parents à nos côtés. Et c'est renforcer les règles éducatives, et il y a un truc sur lequel ils sont hyper attentifs, c'est vrai pour tout le monde, hein, ça. Mais il faut qu'on soit des adultes cohérents, disponible, prévisible. C'est la base de l'attachement. C'est la base de l'attachement sécurisant. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'être cohérent entre nous, les parents, mais même nous-mêmes, chacun, être cohérent, prévisible, prévisible, c'est-à-dire qu'il sait comment on va réagir dans cette situation, et disponible pour les écouter. C'est valable pour tous les enfants, mais ça l'est tellement plus pour des enfants qui sont débordants d'anxiété, d'intuition. Il faut les aider à favoriser l'insertion sociale, et pas les inscrivant dans un sport, une activité qu'ils n'aiment pas. Il faut préserver l'équilibre absolu entre l'affectif et l'intellect. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as un gros potentiel que tu vas garder ce potentiel. On n'est pas, en tant que parent, là pour te dire, il faut que tu t'en serves tout le temps, il a le droit de faire le bébé. Il a le droit d'avoir un développement affectif qui n'est pas en lien avec son développement intellectuel. Il faut préserver cette harmonie. Il faut dialoguer avec eux, même s'ils ne sont pas toujours d'accord pour le faire. Et dialoguer, ça veut dire s'asseoir au pied de son lit le soir, quel que soit son âge, des 4-5 ans. Allez, dis-moi tes nouvelles peurs, dis-moi ce qui t'inquiète. Même si ça te paraît absurde, je veux que tu m'en parles. Et quand ils sont adolescents, il faut savoir négliger la forme et écouter le fond. Souvent, des parents me disent, il m'a dit un truc hier, c'était la façon dont il me l'a dit, je n'ai pas supporté, je me suis tiré. Mais écoutez le fond, ils ont toujours raison. Il faut revenir le lendemain en lui disant, mon chéri, ce que tu m'as dit hier, la façon dont tu m'as parlé devant ton frère, devant ta soeur, c'est pas bon. Ça, c'est un bon truc aussi à dire. Si on lui dit, ne me parle pas comme ça, il ne comprend pas. Si on lui dit, comment veux-tu que je sois crédible avec ton petit frère et ta petite soeur, si en permanence tu discrédites ce que je fais. Donc là, vous donnez du sens. Accepter de se faire aider aussi. En tant que parent, on n'est pas tout puissant. Et je pense que le premier à intervenir, c'est le médecin de famille, les psychologues, les écoles, les associations. Avec les enfants précoces, on a besoin d'aide. On a besoin de travailler en équipe. Pour que l'enfant précoce puisse effacer le goût amer de la désillusion quand il l'a. Et souvent, ce que je vois, moi, ils sont déjà dans la désillusion. Exhumer le souvenir et la saveur de la passion. Il y a des choses qui t'ont passionné quand tu étais petit, on va les retrouver. Trouver le chemin qui les ramène à la motivation. Je et pas trop démotivé. Donner du sens à ta différence. T'es différent, on va en faire quelque chose. Sublimer le doute en perfectionnisme. Sélectionner le bon programme, celui qui ravive les couleurs. Et se mettre, il faut que tu te mettes en situation d'accueillir un heureux hasard. Il ne va pas venir tout seul. Je faisais une conférence à Lausanne, je ne sais pas ce qu'il était, Lucas, avec Jean-Daniel Norman, c'était un truc magnifique. L'intelligence n'est pas une maladie. Les enfants à haut potentiel ne sont pas à plaindre. Ils possèdent de quoi s'engager sur le chemin du sens. Ils ont de la chance, ils sont une chance pour tous les autres. C'est-à-dire que non seulement c'est bien pour eux ce qu'ils font, mais c'est aussi pour mieux comprendre comment les autres fonctionnent. L'actualité, j'ai trouvé ça de Nelson Mandela. En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Et quand on redonne ça aussi comme mission, les sentinelles, mission aux enfants à haut potentiel, leur dire que tu vas rendre service, toi, en montrant que tu es capable de dépasser tes propres difficultés. Donc pour conclure, Malo, j'ai revu Malo 3 ans après, et je lui ai demandé, je lui ai dit, Malo, visiblement, tu t'en es sorti, comment t'as fait pour rebondir alors que t'étais si mal quand tes parents se sont séparés? Il me dit, je sais pas, ben, essaye de réfléchir, ça m'intéresse. Dis-moi comment t'as fait pour accepter la situation. Il m'a répondu ça, je trouve ça très beau. Eh bien, c'est comme quand on a peur la nuit et que la lumière ne marche pas. Il suffit de se souvenir que le matin finit toujours par arriver. Donc c'est simple, c'est clair, c'est propre, c'est concis. Je pense que c'est ça, un des secrets de la résilience de l'enfant au potentiel. Apprendre à attendre, apprendre à concilier l'intelligence et le hasard. Quand on arrive à leur vendre ça, eh bien, ils acceptent l'idée que le hasard peut un jour faire bien les choses, et il le fait souvent. Apprendre à lâcher prise, hein, ces enfants qui sont tellement dévorés par le besoin de maîtrise, laisse tomber, lâche. Dis-moi ce que tu as à dire. Ils contrôlent tellement leurs émotions qu'ils veulent parfois pas nous les dire. Trouver de nouveaux objectifs, se réenchanter et retrouver l'envie de marcher puis de courir pour voir se lever enfin l'aube des sentinelles. Voilà, je vous remercie de votre attention.